Et on aime faire une déclaration de la foi, parce que nous croyons de tout notre cœur que cette Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas juste un livre normal, mais ça contient la parole de Dieu. Et on aime proclamer cela, parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Donc, vous savez que la semaine passée, on a terminé une série de messages qui a duré, quoi, 4 semaines sur « Laissez-vous transformer ». Et on a parlé de l'importance de permettre à Dieu de faire une œuvre dans notre vie pour qu'on soit vraiment changé. Et on a parlé du fait que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et que quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, que notre esprit devienne une nouvelle création, une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Mais dans notre corps, nous avons encore une nature pécheresse. C'est pourquoi dans notre cœur, on veut faire la bonne chose en tout temps. Mais dans notre corps, on a les impulsions et les désirs pour faire le contraire. Et on a un genre de combat. Et on a dit que pour être vraiment changé et transformé, il faut que notre intelligence ou notre âme, qui est notre... Quoi? Est-ce que quelqu'un s'en souvient des 3 parties de l'âme? Mais esprit, âme et corps. Mais l'âme, c'est quoi? C'est notre intelligence, ce que nous pensons, c'est nos émotions, ce que nous ressentons, et c'est notre volonté. Et c'est ça qu'on, c'est là où on prend nos décisions. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que c'est au niveau de l'âme où on a besoin d'être renouvelé afin que notre âme se mette en accord avec notre esprit. Et quand l'âme et l'esprit sont en accord, le corps doit suivre. Mais quand notre âme s'accorde avec le corps et les désirs charnels du corps, là, on fait des choses qu'on ne veut pas faire dans le cœur. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu cela pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, on va continuer un peu dans une direction semblable, parce que toutes ces choses sont reliées ensemble. En fait, le titre du message aujourd'hui, c'est « L'homme dans le miroir ». Et on sait hein, que qu'est-ce qu'on voit dans le miroir reflète en principe qui nous sommes, n'est-ce pas? Dans le domaine physique, on se regarde dans le miroir pour voir quel genre d'apparence nous avons. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est que c'est bon de se regarder dans le miroir physique. Et je vous conseille de le faire à chaque fois que vous quittez la maison, de vous regarder dans le miroir, juste pour être certain que vous n'avez pas toujours votre déjeuner sur le visage, un peu de sauce de spaghetti ou que les cheveux ne sont pas trop déplacés. Faites le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais ça, c'est bon de se regarder dans le miroir physique et naturel. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre genre de miroir que nous avons à notre disposition. Et si on peut apprendre à se regarder dans le miroir de l'esprit, ça va pas juste refléter qu'est-ce qu'on est actuellement, mais ça va aussi refléter qu'est-ce qu'on peut devenir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va commencer en lisant un passage en Jacques, chapitre 1. Et la question que je vous pose ce matin, c'est, est-ce que vous connaissez l'homme dans le miroir? Connaissez-vous l'homme dans le miroir? Et on va regarder ceci, Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Souligne encore ce mot, âme. Parce que ici, cette parole, ce verset de la Bible, est adressé pas aux non-croyants, mais ce verset s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, qui sont déjà passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ces personnes sont déjà nées de nouveau, ils sont déjà sauvés dans leur esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la parole de Dieu qui est plantée en nous peut sauver nos âmes, c'est-à-dire encore notre intelligence, nos émotions et notre volonté peut être sauvée. Sauver, ça veut dire aussi préserver et d'avoir la raison saine et être guéri. Et souvent, on a besoin d'être guéri dans nos émotions, n'est-ce pas? On a besoin d'être préservé du mal dans notre âme. Et c'est ça que la parole de Dieu va faire. Mais regardons verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnement. Souligne ce mot, faux raisonnement. Ça, c'est une chose. Peut-être un jour, je vais faire une série là-dessus. Je ne sais pas, parce que depuis quelques mois, c'est une chose qui revient souvent, et dans mes temps de dévotion, je vois souvent des passages qui parlent de le fait qu'on peut se tromper soi-même. On peut être trompé, mais on peut se tromper soi-même. Et la façon qu'on se trompe, c'est par des faux raisonnements. Les raisonnements vont avoir lieu où? Au niveau de notre âme. Encore nos pensées, notre intelligence peut être programmée de penser la bonne chose qui est en ligne avec la vérité, ou on peut nourrir notre intelligence avec des choses qui sont fausses, et ces choses, si on continue à les nourrir et alimenter ces mauvaises pensées, on va finir par se tromper soi-même. Se tromper soi-même dans quel sens? On lit quelque chose dans la Bible qui dit, par exemple, « Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. » Mais nos émotions, nos pensées disent le contraire parce qu'on n'a pas pris le temps de renouveler nos pensées. Et on dit, mais moi, j'ai pas le goût de pardonner cette personne. Il m'a vraiment fait mal. Cette personne m'a fait tort. Alors, je pense que le Seigneur va comprendre si je ne le pardonne pas cette fois-ci. Donc, on commence à raisonner. Vous comprenez? Mais les raisonnements que nous avons sont des faux raisonnements. La Bible dit qu'on doit le pardon à tout le monde. On ne doit pas la confiance à tout le monde, mais on doit le pardon à tout le monde. Peu importe qu'est-ce que quelqu'un vous a fait, vous lui devez le pardon. Il faut le pardonner comme Christ vous a pardonné. N'est-ce pas? Donc, mais le problème, c'est que si on ne met pas cette parole en pratique, on commence à raisonner. On peut dire, par exemple, donner, il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Mais quand l'occasion vient de donner de notre temps, de notre argent ou quoi que ce soit, des fois, on peut raisonner. Si on ne met pas la parole en pratique tout de suite, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va dire, mais le Seigneur va comprendre si je ne donne pas de mon temps ou de quoi que ce soit qu'il me demande à donner, parce que dans le fond, il comprend ma situation. Ma situation est un peu particulière, donc j'ai pas vraiment besoin de le faire cette fois-ci. Donc c'est des raisonnements qui sont pas vrais. Et si on fait cela, si on laisse ces raisonnements continuer, on va finir par se tromper. Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec un non-croyant. C'est-à-dire que, mais une jeune fille tombe en amour avec un jeune homme qui connaît pas le Seigneur Jésus, qui ne veut pas suivre le Seigneur Jésus, ou un jeune homme tombe en amour avec une fille qui veut absolument rien savoir de Dieu, et au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, la personne commence à raisonner dans sa tête, « Oh, mais peut-être, si je suis vraiment gentil, je vais finir par l'amener au Seigneur. Je peux. » Et puis, on a la fréquentation missionnaire, et ça, c'est dangereux. Mais par des faux raisonnements, on se trompe. Au lieu de dire, bon, la Bible dit ça, je dis oui, je le mets en pratique, je l'accepte. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et là, on parle du miroir, parce que regardons, on va continuer. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Savez-vous, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais si vous ne la mettez pas en pratique, si vous ne traduisez pas cette parole en acte, vous vous trompez. Amen. Donc, verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un, quoi? Un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'est-ce pas bon de savoir que la parole de Dieu, c'est une loi de liberté, c'est pas de l'esclavage. » Ça, c'est quelque chose d'important. Juste cette révélation peut vous aider beaucoup. Et ça va vous inspirer à ne plus vous tromper par des faux raisonnements. Parce que le problème, c'est que les gens, ils vont lire quelque chose dans la Bible ou entendre une prédication de la parole. Exemple, pardonnez-vous ou donnez ou ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les non-croyants. Et qu'est-ce qu'ils ne croient pas? C'est que Dieu veut nous libérer. Et ils croient que, bon, mais si je fais ça, je vais perdre quelque chose. Je vais pas être heureux. Mais c'est le contraire. La parole de Dieu va toujours vous rendre heureux. Et il faut qu'on comprenne cela. Il faut y croire. Il faut la mettre en pratique si vous voulez être libéré. Donc, verset 25 encore. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la parfaite loi, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ça me tente. Moi, je veux être un homme heureux. Je veux pas être malheureux. Donc, la clé, c'est de savoir comment mettre la parole en pratique. Et ici, on voit que la parole de Dieu est comparée à un miroir. Quelqu'un qui écoute la parole, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui s'en va et qui oublie tout de suite qui il était, qu'est-ce qu'il était. Est-ce qu'on peut voir la prochaine diapo? Hein? Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Voici la question qu'on a besoin de se poser. Hein? Vous voyez cet homme ici, il n'est pas trop en forme, mais quand il se voit dans le miroir, l'image qui est dans le miroir montre une image qui est différente, n'est-ce pas? Et voici qu'est-ce que je trouve intéressant. C'est que, on parle beaucoup dans notre société de l'image de soi, n'est-ce pas? Il faut avoir une bonne image de vous-même, etc. Et donc, on va dire aux enfants que vous êtes capables, vous êtes bons, vous êtes beaux, vous pouvez tout faire, il n'y a rien d'impossible. Mais savez-vous que, on oublie de leur donner l'ingrédient essentiel, c'est que oui, vous avez une grande capacité, mais votre raison d'être se trouve en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est que la parole de Dieu est comparée à un miroir. Et ici, cet homme, il peut se regarder dans le miroir, il voit les biceps, il voit que, bon, les abdos sont bien développés, il est en forme, c'est vraiment quelque chose. Mais la réalité, c'est que ça, c'est tout dans sa tête. Quand on parle de l'homme naturel, vous êtes d'accord? Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très, très, très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que quand vous regardez dans le miroir spirituel de la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous donner l'image de qui vous êtes en réalité dans l'homme intérieur. Donc, dans un sens, voici qu'est-ce qui est vraiment cool. Et combien de vous aimeriez avoir un miroir comme ça dans le naturel où, bon, vous pouvez juste programmer le miroir de qu'est-ce que, bon, la grosseur des biceps et tout, et ça va être juste parfait. On pèse sur le bouton, on se regarde dans le miroir et pouf, on est transformé. Poum! On est juste comme ça. J'aimerais ça, on sauverait du temps, on n'aurait plus besoin d'aller au gymnase, pas besoin de faire attention à ce qu'on mange, c'est juste automatique, j'aimerais ça. Ça marche pas comme ça dans la physique. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est presque trop bon pour être vrai. Mais Dieu nous a donné un miroir surnaturel. C'est-à-dire que si on se regarde dans le miroir de l'esprit, on est capable de voir le vrai image de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et plus on y regarde, et plus on agit en conséquence, plus on est changé et transformé, et on devient semblable à l'image qu'on voit dans le miroir. Il faut toujours travailler. Il faut toujours agir. Il faut pas, c'est pas de la magie, c'est pas abracadabra, je suis semblable à Jésus. Mais quand même, on voit, c'est quelque chose d'extraordinaire que la parole de Dieu est comparée à un miroir, pas magique, mais surnaturel. Et si on se regarde dans ce miroir, si on plonge les regards et on se met à l'œuvre par la suite, on se voit, voici qui je suis vraiment en Jésus-Christ, alors maintenant je vais agir en conséquence. Je me regarde, je déclare qu'est-ce que je vois et j'agis en conséquence. Là, je suis changé et transformé. Est-ce que vous me croyez? Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais vous montrer un verset de la parole qui va vous aider. 2 Corinthiens 3, 17. Regardons ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On a parlé de la loi de la liberté, et encore une fois aujourd'hui, nous voyons que la parole et l'esprit marchent toujours ensemble. Dieu a dit, et la lumière fut, mais pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc, à chaque fois que Dieu agit, c'est toujours un mariage de l'esprit et la parole de Dieu. Et la transformation que nous voulons vivre et qu'on veut expérimenter dans la vie chrétienne, ça va être le résultat de l'esprit et la parole qui travaillent ensemble. Mais le miroir de la parole, c'est quelque chose qui joue un rôle important. Regardons ceci. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose. On se voit dans le miroir de la parole de Dieu et la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'un homme qui a vécu pendant des décennaires dans le péché, quelqu'un qui a commis des choses atroces, quelqu'un qui a vécu sa vie dans la débauche et dans le mensonge et dans tous les problèmes qu'on peut imaginer, quelqu'un qui a fait énormément du mal aux autres personnes dans le passé, avant de connaître Jésus-Christ, il peut venir à Jésus. Il peut se repentir de ses péchés. Il peut dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur, j'ai besoin de toi. Je confesse que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Et je crois que de tout mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, quelque chose se passe surnaturellement, instantanément. L'homme est régénéré. Le cœur de Pierre est enlevé. Un cœur de chair est mis dans son être. Et la nature divine, lui, est imputée. La justice de Dieu lui est imputée. Et laisse-moi vous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que il devient dans son cœur l'image exacte de Jésus-Christ. Si on pourrait regarder avec les lunettes spéciales dans le cœur de n'importe quel chrétien qui est vraiment né de nouveau, on verrait Jésus en lui et on verrait que lui et Jésus sont devenus une seule plante. Donc, quand on regarde ça dans le miroir de la parole, on voit l'image de qui est Jésus, qui nous sommes en Jésus-Christ, et si on se met à l'œuvre, et si on médite cela, on est transformé de gloire en gloire, et qui nous sommes à l'intérieur commence à affecter notre façon de penser, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et ce que nous choisissons va être changé, et ce miroir de la parole va nous changer de gloire en gloire dans l'image de Jésus. N'est-ce pas quelque chose? Moi, je pense que ça vaut la peine de se regarder dans le miroir. Mais qui est-ce que vous voyez? Le problème, c'est que il y a trop de personnes qui se regardent dans le miroir et tout ce qu'ils voient, c'est la vie du passé. Ils voient l'homme extérieur, l'homme naturel, le corps physique, ils voient les rides, ils voient les cheveux qui changent de couleur ou qui sont plus là, ils voient les choses qui changent à une vitesse qu'ils n'aiment pas et ils pensent à tous les souvenirs du péché et des torts et des choses méchantes qu'ils ont faites, et ils se voient comme ça. « Oh, je suis juste un vieux pécheur. Heureusement, j'ai accepté Jésus, au moins je vais aller au ciel et passer l'éternité avec lui. » Mais ils se voient toujours, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est un vieux pécheur sauvé par la grâce. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on se regarde dans le miroir de la parole et qu'on voit qui on est vraiment en Jésus. Et quand on y voit, on se voit là comme ça, on est transformé, changé. Et c'est un processus, transformé en la même image. Tout le monde dit même image. Mais c'est de gloire en gloire. Tout le monde dit de gloire en gloire. C'est-à-dire que c'est un processus. Tranquillement, pas vite, on change. On est transformé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regardons, il y a plusieurs versets que je voulais vous donner là-dessus. J'ai déjà mentionné 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regardons, j'ai mentionné Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Regardons Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau. Tout le monde dit l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance selon quoi? Selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que vous êtes une nouvelle création? Qu'est-ce que cette création a l'air? Vous ressemblez à votre Père, n'est-ce pas? Tel le Père, tel le Fils. Si vous êtes une nouvelle création, vous avez à l'intérieur de vous, dans votre vrai vous, votre fort intérieur, vous êtes l'image de Jésus-Christ. Vous êtes créé en son image. Mais il faut qu'on se voit comme ça dans la parole, dans le miroir de la parole de Dieu. Regardons, il y a un autre verset qui parle de cela, Romains 6, 5. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Savez-vous que vous êtes une seule plante avec Jésus-Christ? Pensez à ceci comme il faut. Parce que si vous pouvez saisir la réalité de la nouvelle création et si vous pouvez commencer à vous voir dans ce miroir de la parole comme il faut, vous serez changé. Et vous allez voir toute une différence dans votre vie. Le problème, c'est que trop de chrétiens, et même moi, je l'ai déjà dit dans le passé, parce que je l'ai entendu. J'ai entendu les prédicateurs le prêcher. J'ai cru à ça et je l'ai répété moi-même. Et combien de vous avez peut-être fait la même erreur de dire les choses genre, si tu vois quelque chose de bon en moi, c'est pas moi, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit les choses comme ça? Si tu vois quelque chose de bon en moi, c'est pas moi que tu vois, c'est Jésus. Ça, c'est à moitié vrai, mais c'est pas vraiment le cas. Parce que voici le problème. Si je suis vraiment une nouvelle création, si Dieu a vraiment donné un nouveau cœur, il a mis un nouveau esprit à moi, est-ce que l'esprit qu'il a mis à moi est bon ou pas bon? Est-ce que la nouvelle création qu'il a faite à moi, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est bon. Donc, si vous voyez quelque chose de bon en moi, ça se peut que vous voyez le vrai moi. Si vous voyez quelque chose de mauvais, c'est là que vous voyez les manifestations de la nature pécheresse qui réside toujours dans ma chair. Ou vous voyez toujours le résidu des mauvaises pensées pourries qui restent dans mon âme parce que j'ai pas encore eu le temps de renouveler mon âme complètement. Si vous voyez des choses méchantes, c'est ça que vous voyez. Vous voyez le péché qui est encore dans mon corps ou mon âme qui n'est pas encore renouvelée. Mais si vous voyez quelque chose de bon, c'est oui, c'est Jésus, mais c'est Jésus qui est en moi et nous sommes une seule plante. C'est la même plante. Est-ce que vous voyez? C'est subtil, mais cette vérité peut transformer votre vie. Parce que sinon, vous allez toujours avoir cette conscience du péché. Je suis un pécheur, je suis un pécheur. Il faut arrêter de dire vous êtes pécheur. Vous étiez pécheur, vous étiez mort dans vos péchés, mais maintenant vous êtes une nouvelle création et il faut que vous vous regardiez dans le miroir de la parole comme il faut. La parole ne dit pas que vous êtes pécheur. La parole de Dieu dit que vous êtes devenu une nouvelle création. Amen. Il y a un verset qui parle de cela. En Romains 8, 29, un autre verset qui est super bon. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Encore, le vrai vous est semblable à l'image de Jésus dans votre esprit, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mais regardons Romains 7, 18 Et verset 23, 22, 23 aussi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ah, oh, mais pasteur, tu viens de dire qu'il y a des bonnes choses en moi. Oui, mais regardons le contexte. Exactement. Paul a compris que qu'est-ce qui est bon n'habite pas en moi, mais il va expliquer. Il parle de quelle partie de son être. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon quoi? L'homme intérieur. Ah! Donc on a un homme intérieur, mais on a aussi un homme extérieur dans ma chair. Il n'y a pas de bon qui réside là-dedans. Et si je laisse ma chair faire qu'est-ce qu'il veut, il va faire des bêtises. Est-ce que vous avez découvert que c'est vrai? Même si vous êtes chrétien depuis 20, 30 ans, savez-vous que vous êtes toujours capable de faire des choses qui ne sont pas correctes? Donc, regardons, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de l'ordre du péché qui est dans mes membres. On a parlé de ça, qu'aujourd'hui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Je suis plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Je peux maintenant obéir à mon esprit et mon vrai homme caché du cœur peut dominer mon être. Amen. Donc, il faut qu'on se regarde dans le miroir et il faut qu'on se voit comme on est pour vrai. Il y a un verset en 1 Corinthiens 6, et on va lire cela. Et juste pour terminer aujourd'hui, il y a trois points que je voulais faire, qui ça roule dans mon esprit depuis le début de la semaine. Et ce verset, j'ai écrit le message pour ce matin, je pense, trois fois. Et je voulais pas, dans ma tête, j'avais certaines choses que je voulais faire, mais à chaque fois, le Seigneur m'a ramené à ce verset. Donc, il y a une raison pourquoi on a besoin de le voir ce matin. Hein, j'ai commencé à dire, oh, peut-être on va pas faire ça ce matin, mais oui, on a besoin de le faire ce matin. Parce qu'on parle de l'homme dans le miroir. On parle de se regarder dans la loi parfaite de la liberté, de plonger les regards, d'agir en conséquence et d'être transformé de gloire en gloire dans les mêmes images, dans l'image de Jésus. Donc, regardons 1 Corinthiens 6, 9, parce qu'on va voir un peu de lumière, ça va nous aider davantage. 1 Corinthiens 6, 9 dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est assez raide, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Dieu est un Dieu qui est saint, et Dieu est 100% saint. Mais voilà quelque chose qu'on a besoin de saisir, verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez. C'est pas qu'est-ce que vous êtes, c'est ce que vous étiez. C'est super important pour nous de distinguer entre notre vie du passé et notre vie présente en Jésus-Christ. Autrefois, j'étais mort, j'étais pécheur, j'avais une nature rebelle contre Dieu, j'avais le péché pas juste dans mes membres, mais j'avais la nature pécheresse dans mon esprit. J'étais pécheur à 100%, pure laine. Et vous aussi. Nous tous étions comme ça. Mais regarde bien. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été quoi? Lavé. Mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et voici le problème. Il y a des gens encore aujourd'hui, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se regardent dans le miroir aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils voient? C'est les adultères. Parce qu'ils ont commis l'adultère dans le passé. Ils voient quelqu'un qui est pris dans la débauche parce qu'autrefois, ils vivaient dans la débauche. Ils voient toute cette liste de péchés, de la cupidité, l'ivrognerie, et toutes ces choses malsaines et ces choses qui sont pas correctes. Et ils se voient dans le miroir et ils s'identifient encore aujourd'hui avec ceux qu'ils étaient dans le passé. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Et aussi longtemps que vous vous voyez comme ça, vous allez finir par agir comme ça. Et c'est ça la chose. Si vous croyez que vous êtes pécheur, qu'est-ce que vous allez faire? Péché. Mais si vous croyez dans le fond de votre cœur que vous êtes maintenant une nouvelle création, vous allez agir comme une nouvelle création, conscient du fait que si vous ne faites pas attention, vous pouvez toujours donner place à votre corps et que vous pouvez toujours tomber et faire des choses qui ne sont pas correctes et vous aurez besoin de vous repentir. Mais aujourd'hui, on parle du miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Est-ce que vous vous voyez de la même façon que Dieu vous voit? Et qu'est-ce que Dieu voit? Il ne voit pas les infâmes. Il ne voit pas les cupides. Il ne voit pas des personnes, les menteurs, les voleurs, les adultères, les fornicateurs. Quand Dieu vous voit, il voit quoi? Une personne qui est lavée, sanctifiée et justifiée. Et il faut que vous voyez comme ça. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié. Et si vous avez cette image, vous serez transformé de gloire en gloire dans cette image, dans la même image de Jésus-Christ. Regardons, on va juste finir avec ça, ces trois points-là, super importants. Numéro un, vous avez été lavé, alors gardez-vous pur. Vous avez déjà été lavé, mais il faut que vous sachiez que vous n'êtes plus sale. On parle de votre esprit. Votre esprit n'est pas sale. L'apôtre Paul, qui était meurtrier, qui était blasphémateur, qui était un homme violent, la Bible dit, en fait, qu'il chassait les chrétiens, il mettait les hommes, les femmes en prison. Il entrait dans leur maison. Imaginez les choses atroces que Paul, Saul de Tarse, a faites. Il a tué des hommes meurtriers. Pourtant, en 2 Corinthiens chapitre 7, il a dit, « Fais une place pour nous dans votre cœur, nous n'avons fait tort à personne. » Comment est-ce que Paul peut dire « J'ai fait tort à personne » parce qu'il a compris que le sang de Jésus l'a lavé. Le sang de Jésus n'a pas juste caché ses péchés, mais le sang de Jésus a effacé les péchés. Ésaïe 43, 25 dit « C'est moi, c'est Dieu qui parle, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc, si vous vous regardez dans le miroir, dans votre tête, dans votre âme, ou n'importe où, et vous commencez à voir quelqu'un qui dit, « Ah, tu es vraiment sale pécheur. » Quel sale de type. Tu sais quoi? C'est pas Dieu qui parle. C'est pas la parole de Dieu qui te dit la vérité. Et vous pouvez vous tromper par des faux raisonnements. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous pouvez raisonner, oui, mais c'est vrai que j'ai fait toutes ces choses. C'est vrai que j'ai fait ces gaffes. C'est vrai que j'ai commis l'adultère. C'est vrai que j'ai fait tout cela. Et alors donc, par les faux raisonnements, vous agissez pas selon la vérité. Et vous vous trompez. Et vous n'allez jamais arriver à la place où vous pouvez vraiment vivre dans la sainteté. Dieu veut qu'on soit saint, car il est saint. Dieu veut que le péché soit aboli de l'Église. Vous êtes mort au péché. Ne laissez-vous plus être esclave du péché. On voit les chrétiens faire des choses grotesques aujourd'hui. Les personnes qui prononcent Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils font les choses grotesques, mais je suis convaincu qu'une bonne partie du problème, c'est qu'ils se voient comme des personnes grotesques. Ils se voient pas comme la Bible dit, lavés par la parole de Dieu. Tout le monde dit, je suis lavé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, vous êtes lavé dans votre esprit, il faut renouveler votre intelligence, et c'est à vous de vous garder pur aussi. Colossiens 2, 14. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par cette disposition. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. J'aime ça dans le français courant, parce qu'il y a un langage qu'on peut comprendre. Combien de vous savez que dans le domaine de l'esprit, on a un dossier, on avait un dossier, spirituellement parlant, un dossier criminel de tous nos péchés. Toutes les choses qu'on a faites en commençant quand on était jeune, à chaque fois qu'on a désobéi à maman ou volé les biscuits, ou raconté les mensonges, ou piqué des crises, on avait ces ordonnances, on avait une longue liste, un dossier énorme contre nous, qui disait, vous êtes pécheur. N'est-ce pas vrai? Mais savez-vous la bonne nouvelle? Quand Jésus-Christ est venu, il a cloué ce dossier à la croix. Et j'aime ce langage parce qu'il dit ici qu'il a annulé le document. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec les ordinateurs? Vous savez c'est quoi, hein? Vous travaillez sur un document et vous pouvez l'annuler. Et qu'est-ce que j'aime encore mieux? C'est que c'est marqué ici. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Et il a supprimé en le clouant à la croix. Vous savez qu'avec un ordinateur, on peut avoir un document, bon, on met ça à la corbeille, n'est-ce pas, la poubelle. Mais là, si on le met dans la poubelle, le problème, c'est que c'est encore là. Comprenez-vous, vous savez de quoi je parle. On peut avoir un document, on le met dans la poubelle, mais si juste au cas où qu'on veut vraiment l'avoir, on peut aller fouiller dans la poubelle. Et dans la poubelle, on trouve l'ancien document et on peut le relire. À moins que on vide la poubelle. Et là, quand la poubelle est vidée, et quand et je sais que je suis pas un technicien d'ordinateur, mais il y a un moyen de faire disparaître une fois pour toutes les choses. On peut complètement reformater un disque, n'est-ce pas? Et savez-vous que quand Dieu nous a récréés, il n'a pas seulement mis tous ces documents de nos péchés, notre dossier dans une poubelle où il peut avoir accès à chaque fois qu'on fait quelque chose, il fuit dans la poubelle pour dire, ah, est-ce que tu t'en souviens quand tu as fait ça? Oh, et regarde, ouh, ah, décembre 98, wouh! Te souviens-tu de ça? Non. Dieu ne fouille pas dans la poubelle. Il a supprimé tous ces documents. Dieu s'en souvient pas. Demande-lui de le trouver, il peut pas. Parce que dans sa souveraineté, il a pris une décision d'oublier nos péchés. Et moi, j'aime ça. Est-ce que vous êtes content? Mais, savez-vous quoi? On a un adversaire qui n'oublie pas. Et lui, il a une grosse poubelle. Là, lui, c'est plus gros que qu'est-ce que Majo peut vous louer pour la construction. Là, lui, c'est pas des petites poubelles, c'est des gros contenants énormes et c'est plein de toutes les choses que vous avez faites dans le passé. Mais le problème, c'est que c'est toutes ces personnes qui, là, dans ces dossiers, sont déjà mortes en Jésus-Christ. Amen. La prochaine fois que le diable vous montre une photo de ce que vous avez fait dans le passé, dites non, désolé, c'est pas moi, cet homme-là est mort, je suis une nouvelle création. Je suis lavé, tout le monde, je suis lavé. Alléluia. En Jean 3, 9, dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment né de Dieu, il sait qu'il est lavé, il est pur, il est net dans son cœur. Il ne peut pas pécher de son cœur. Il peut vivre comme un homme charnel, il peut faire des compromis, mais c'est grave, c'est très grave. Mais savez-vous que si on peut commencer avec cette image, on se voit dans le miroir comme un homme lavé et on se garde pur. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se confirmant à ta parole. Donc encore, la parole de Dieu, c'est la chose qui va vous garder pur. Deuxième chose qu'on voit dans le miroir, vous avez été sanctifié. Alors, présentez-vous à Dieu. Sanctifié, ça veut dire mise à part pour une utilisation spécifique. J'ai toujours donné l'exemple de la brosse à dents. La brosse à dents est sanctifiée chez moi. Je l'utilise pour une chose. Je me brosse mes dents. Je n'utilise pas ça pour laver la toilette ou pour brosser les dents du chien. J'aimerais pas ça. C'est ma brosse à dents. C'est à moi. Elle est sanctifiée. Et quand Dieu vous a sauvé, il vous a lavé par son sang. Il a supprimé tous les documents. Et puis, il vous a mis à part. Maintenant, il est à moi. Je l'ai acheté. Savez-vous quoi? La Bible dit que vous avez été acheté en grand prix et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est ça. C'est plus ma vie. C'est à lui. Il a acheté. Je suis la propriété de Dieu et j'ai un bon propriétaire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Si ma vie lui appartient, je devrais lui présenter ma vie. On va voir quelques versets pour cela. Hébreux 13, 12 dit, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Votre sanctification a coûté cher. Quand Jésus vous a lavé, ça a coûté cher. Quand Jésus vous a mis à part pour son service, ça a coûté cher. Et c'est pourquoi Romains 6, 13 dit ceci, vous n'avez plus le droit. Regarde quelqu'un et dit, tu n'as plus le droit. Vous n'avez plus le droit de faire quoi? Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Ils s'en serviraient comme armes contre Dieu. Est-ce que vous voulez que vos membres soient utilisés comme les armes contre Dieu? Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu. Regarde quelqu'un d'autre et dit, présentez-vous à Dieu. Amen. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes. Soulignez cela, une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Est-ce que vous êtes reconnaissant d'avoir été arraché à une mort certaine? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Donc, correct. On est enthousiaste, mais on va écouter aussi. Mais regardons ceci. Présentez-vous à Dieu. Dieu nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Je suis mis à part. Ma vie m'appartient plus. Je suis vraiment à lui. Mais quand je me regarde dans le miroir, encore, il ne faut pas que je voie un homme sale. Je dois voir un homme net, propre. Monsieur net. Monsieur Net a les muscles aussi, n'est-ce pas? Mais il n'a pas de cheveux, tu n'as dit. OK. Peut-être pas un bon exemple. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus dans la parole et on sait que, bon, à chaque fois que je vois Jésus, je ressemble à Jésus. J'ai la même image que lui. J'ai été créé dans la même image que Jésus-Christ. Donc, il faut que je me voie lavé. Mais il faut que je me voie sanctifié. Dans mon cœur, je dois être convaincu. Dans mes pensées, je dois penser que je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme du diable. Ou je ne suis pas dans le royaume des ténèbres. Ma vie ne sert pas pour faire des bêtises. Ma vie sert à faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous devrez dire, je suis une femme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis mise à part pour la gloire de Dieu. Donc, tout le monde dit, je suis lavé, je suis sanctifié, et puis finalement, vous avez été justifié. Justifié, alors, régnez dans la vie. Régnez dans la vie. Savez-vous quoi? La justice, ce n'est pas une chose qu'on peut mériter. La justice, c'est une chose qu'on a héritée en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » J'étais autrefois un pécheur. Jésus, qui est parfait, qui n'a jamais fait quoi que ce soit de mauvais, il a pris une décision dans son amour. Combien de vous êtes vraiment reconnaissants pour ce que Jésus-Christ a fait? Il n'a pas fait mal à personne. Il n'a jamais menti à Marie, sa maman. D'accord? Jésus n'a jamais volé. Jésus n'a jamais tué une personne ou fait mal à quelqu'un ou frappé une personne. Jésus n'a fait que du bien. Alors, en venant sur la terre, il a pris une décision de son propre gré de s'offrir un sacrifice. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir la justice de Dieu. Jésus est devenu, voici une chose bien importante, Jésus est devenu pour un peu de temps ce que nous étions. Est-ce que Jésus a péché? Jamais. Mais légalement, il est devenu péché. Quand il était cloué à la croix, tous nos dossiers, toute la poubelle, ont été vidés sur lui. Et il a assumé, il a pris en lui-même toute la pénalité de tous nos péchés, il est devenu péché. Pensez-vous le fardeau qu'il a vécu, l'opprobre, l'oppression qu'il a dû subir, de ressentir. Moi, je sais, moi, j'ai vécu dans les années, pas beaucoup, gloire à Dieu, mais j'ai eu des années où je ne connaissais pas Jésus. Et je sais c'est quoi d'être sous le fardeau du péché, d'avoir un cœur qui a peur de la mort. Et, oh, qu'est-ce qui va arriver à moi? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Imaginez tous les péchés de tout le monde qui a vécu dans le passé, tout le monde qui était en vie présentement et tout le monde qui allait venir dans le futur. Tout le péché sur Jésus, sur un seul homme. Il est devenu péché. Pourquoi? Il est devenu pour un peu de temps ce que nous étions, pour que nous puissions devenir pour éternité ce qu'il est. Juste. La justice, c'est quoi? D'être en règle avec Dieu. La justice, c'est quoi? C'est le pouvoir de se tenir dans la présence de Dieu sans avoir un sentiment de peur, ni d'infériorité, ni de culpabilité. Parce que nous sommes une seule plante avec lui. Donc, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Un homme sale ou un homme lavé? Est-ce que vous voyez un homme qui fait son propre affaire ou un homme sanctifié? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est coupable ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui est juste devant Dieu? Une seule plante avec Jésus. Savez-vous que vous êtes aussi juste que Jésus-Christ? Allô? Et cette justice, c'est un don. Et la connaissance de cette justice vous donnera la capacité de vivre comme un roi sur la terre. De vivre comme un roi, de vivre comme la royauté ici sur la terre. Regardons le dernier verset. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la quoi? Justice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Ce n'est pas au ciel, mais ici sur la terre. Dieu veut qu'on reste pur. Dieu veut qu'on se présente à lui. Dieu veut qu'on règne dans la vie. Mais pour arriver là, il faut qu'on plonge les regards dans la loi, la parfaite loi de la liberté. Il faut qu'on voit qui nous sommes en réalité. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié. Je suis net, je suis mis à part et je suis en règle avec Dieu. Je ne suis plus pécheur, je suis un homme de Dieu. Et j'agis en conséquence. Si jamais je fais une gaffe, c'est bizarre. On devrait avoir cette attitude. Un homme de Dieu ne devrait pas agir comme ça. Mais si vous avez cette idée que, bon, mais je suis juste un pécheur, vous faites des gaffes, bon, c'est normal, qu'est-ce que tu veux? Je suis fait de même. Non, vous n'êtes pas fait de même. Ça me tanné d'entendre des personnes dire, oh, mais écoute, je suis fait de même. Vous n'êtes pas fait de même. Vous étiez pécheur, mais maintenant vous êtes fait à l'image de Jésus-Christ. Voyez-vous comme ça? Et si vous faites quelque chose de pas correct, dites, Seigneur, ça, c'est pas normal. Je suis né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On a lu ça, n'est-ce pas? Seigneur, je viens de pécher. Qu'est-ce que je fais? Je me repens. Je dis, Seigneur, je confesse ce péché. Et tu es fidèle et juste pour me pardonner. Et encore, je reviens à cette connaissance de la juste. Et je suis encore en règle avec Dieu. J'ai plus de culpabilité. Le document du péché a été supprimé. Dieu n'a pas de poubelle pour aller fuir plus tard. C'est parti. Je suis lavé, sanctifié, justifié. Je suis net, mis à part, en règle avec Dieu. C'est ça que je vois dans le miroir. Et plus je vois ça, et plus j'agis en conséquence, plus toute ma vie est transformée de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Aimeriez-vous voir tous les membres de cette Église marcher comme des personnes nettes, mises à part et justes? Plongez les regards dans la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en étant les auditeurs oublieux qui se trompent par des faux raisonnements. Amen. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. On va se lever debout. Et si Patrick peut venir. Merci, Père Céleste. Encore, qu'est-ce que vous allez faire avec ce message? Est-ce que vous allez dire, bon, ça c'était intéressant? Ou est-ce que vous allez vous servir? Moi, je trouve que c'est tellement génial que Dieu nous a aimés tellement, qu'il nous a donné un miroir surnaturel. Un miroir par lequel on peut voir qui nous sommes dans l'homme intérieur et être transformé dans cette image. Ça vaut la peine de regarder et de plonger les regards, de prendre le temps. Alléluia. Mais juste avant de partir aujourd'hui, on va prier ensemble et je veux donner aussi une occasion à chaque homme et chaque femme qui est ici présent. Peut-être vous êtes là. Et ça, c'est peut-être le moment le plus important dans la réunion pour plusieurs personnes. Donc, je vous invite à être sensible à l'Esprit Saint et sensible aux autres autour de vous. Vous savez qu'on parle d'être transformé dans l'image de Jésus. Mais vous ne pouvez pas être transformé dans son image s'il n'habite pas dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas devenu une seule plante avec lui. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sans Jésus-Christ, nous sommes les pécheurs. Nous avons un cœur qui est pourri. Nous avons un cœur qui est plein de meurtre et plein de haine et plein d'adultère et plein de toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Même si vous dites, mais pasteur, moi, j'ai jamais commis l'adultère ou j'ai jamais fait des grosses affaires. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu sans exception. Et que sans Jésus-Christ, nous sommes tous destinés à l'enfer pour l'éternité. Alors, posez-vous la question et soyez honnête. Si vous quittez la salle aujourd'hui, et dans le stationnement, vous tombez mort, votre cœur arrête de battre, vous êtes mort, votre esprit va quitter votre corps. Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Est-ce que vous avez l'assurance, sans aucune doute, que vous irez directement au ciel pour passer l'éternité avec Jésus? Ou, sinon, la seule autre option, c'est de passer l'éternité à l'enfer, séparé d'avec lui. Mais Dieu vous aime et il ne veut pas que vous passiez l'éternité à l'enfer. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites, mais moi, je vais à l'église, ou je lis ma Bible, ou je fais des prières. Aller à l'église, lire la Bible, faire les prières, être une bonne personne, être gentil et sympathique, ne peut pas vous donner un billet au ciel. Il est impossible de gagner votre ciel. La seule chose qu'on peut faire, c'est par la foi de recevoir le don gratuit, le sacrifice que Jésus a fait. Et Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Si tu confesses avec ta bouche, le Seigneur Jésus est. » Un Seigneur, c'est un maître, un patron. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors moi, je vais compter à trois. Et s'il y a quelqu'un ici, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, et vous voulez être sûr et certain, sans aucune doute, que vous êtes en règle avec Dieu aujourd'hui, que Jésus habite en vous, vous voulez être lavé, sanctifié, justifié aujourd'hui, vous voulez changer de vie, avoir un nouveau départ, ou si vous voulez revenir à Jésus-Christ, vous vous êtes éloigné de lui. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Quand je le fais, mets ta main haut dans l'air, je vais prier pour vous. Qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Un, deux, trois. S'il y a quelqu'un, levez la main haut dans l'air. Encore, Jésus dit, si tu me confesses devant lui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais prendre juste une minute. Je crois qu'il y a sûrement une personne au moins. Je ne sais pas c'est qui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? N'hésitez pas. Seigneur, je te remercie ce matin pour chaque homme, chaque femme qui est ici présent. Seigneur, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. Je prie, Seigneur, que s'il y a une personne qui n'a pas osé lever la main, Seigneur, qu'il va plus tarder, que Seigneur, il va prendre cette décision aujourd'hui, avant que ça soit trop tard, au nom de Jésus. Et Seigneur, pour nous qui avons déjà reçu le don gratuit de la vie éternelle, nous qui avons été lavés, sanctifiés, justifiés, nous prenons une décision de plonger nos regards dans la loi de la liberté et d'agir en conséquence afin d'être transformés de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Je prie, Seigneur, que chacun de nous, sans exception, cette semaine, nous allons prendre du temps à se regarder dans le miroir et de déclarer qu'est-ce que nous voyons et d'agir en conséquence. prie avec moi. Père Céleste, je te remercie que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je plonge les regards dans la loi de la liberté et je suis transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. J'ai été lavé et je vais me garder pur. J'ai été sanctifié et je me présente à toi. Prends ma vie, prends les membres de mon corps, je les mets à ton service. J'ai été justifié et je suis en règne avec toi. Alors je peux régner dans la vie comme en croix, parce que je ne suis plus pécheur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va continuer à mettre cela en pratique. On va chanter un dernier chant. Je vous aime. N'oubliez pas, l'équipe de louange, vous avez une réunion tout de suite après.